Voilà. Bonjour à tous. Je n'ai pas utilisé de rétroprojecteur, donc si on peut remettre une lumière normale, ça me plaira. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'ai malheureusement pas pu arriver à la gare avant 10h30 ce matin, donc je n'ai pas assisté aux premières réunions, ce qui est toujours très mauvais. Nous n'avons pas prié ensemble, nous n'avons pas lu la parole ensemble, je n'ai pas écouté ce qui était dit par mes collègues ce matin. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions, ni trop de contradictions entre ce qui va être dit. Voilà, je me présente rapidement, je suis d'origine suisse. Dans une première partie de ma vie, j'étais infirmier en Suisse au centre universitaire hospitalier de Lausanne. Et puis après, j'ai eu vocation de m'intéresser à la Bible, à la théologie. Je suis devenu pasteur au sein de l'UNEPREF. Et puis ensuite détaché à la faculté de théologie à Aix-en-Provence, où je suis depuis 20 ans professeur en éthique et puis maintenant en histoire. Alors voilà un petit peu mon parcours. Et je suis heureux d'être ici. J'ai une dette envers les GBU parce que je me suis converti en Suisse au travers du ministère des GBU à l'âge de 16 ans, de manière assez fracassante, un peu comme l'apôtre Paul. Voilà, donc j'ai une dette morale et spirituelle envers les GBU, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc on m'a chargé en une demi-heure, c'est un peu une gageure, mais de vous parler de l'éthique chrétienne de la contraception, et donc aussi la question de l'enseignement de la Bible sur ce sujet. Voilà, comment dire l'essentiel en 30 minutes sur l'éthique chrétienne de la contraception. Ça ne va pas être très facile. La question de la contraception peut paraître au départ très, très, très limitée et très simple dans la sphère privée de la sexualité, mais elle a une ampleur assez considérable. Voilà, outre les différentes questions qui ont été déjà présentées par ma collègue, voilà, toutes sortes de questions, je dirais, qui touchent aussi symboliquement, par exemple, à l'émancipation de la femme. Il y a une association entre l'émancipation de la femme et le planning familial, la maîtrise de la fécondité. À côté de l'IVG et après le suffrage universel, la contraception a joué un rôle très important dans l'émancipation de la femme. La question des stérilisations, pas seulement volontaires, mais aussi forcées. Est-ce qu'on peut priver effectivement un handicapé mental de ses capacités de procréation? Et puis, alors, donne le vertige toutes les questions liées à l'évolution de la démographie sur un plan exponentiel, pas au niveau d'un pays comme la France qui a pu connaître des déficits momentanés, on l'a évoqué, mais au niveau mondial surtout. Au niveau de la démographie mondiale, on est passé à 7 milliards d'habitants en 2011, et les démographies les plus optimistes font état d'une augmentation de 50% de la population mondiale d'ici l'an 2000, d'ici le siècle. D'ici le siècle, donc passer à plus de 10 milliards d'habitants, soit 50% d'augmentation par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire en termes de répartition des ressources de la Terre qui sont limitées, des richesses, mais aussi de l'alimentation, de la santé, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il est légitime, moralement, d'avoir une politique familiale restrictive, comme celle qui s'est pratiquée en Chine, d'imposer, par exemple, la stérilisation de la femme après la naissance du premier enfant? Nous sommes dans une posture très critique en Occident sur cette question, mais dans mes relations avec des chrétiens évangéliques chinois ou coréens, j'étais très étonné de voir que ceci leur paraît tout à fait naturel et qu'ils y adhèrent entièrement sans distance critique et sans avoir absolument pas la posture critique qui est la nôtre sur ce sujet. Alors, parler de la morale chrétienne de la contraception, c'est bien sûr d'abord évoquer la question de la morale catholique sur le sujet, qui pèse un certain poids, et contre laquelle tout ce qui nous a été présenté, vous avez compris, a été mis en place. Ceci est évident. Donc, elle a mauvaise presse. Et elle formule un interdit qui est très absolu, qui semble sans exception. La morale catholique dit non à la contraception artificielle sous toutes ses formes. La seule méthode qu'elle juge légitime au sein du couple, c'est le respect des cycles de fécondité, c'est la privation de rapports dans la période féconde, c'est la méthode de la température, la méthode Ogino, dont on se moque parfois parce que il y a beaucoup au milieu de nous peut-être d'enfants Ogino. Ma femme est une enfant Ogino, par exemple. Et je suis très heureux que la méthode ait raté pour elle, voilà. Voilà. On se moque aussi facilement de la rigueur catholique sur le sujet, on se moque du pape, souvent. Par exemple, la petite boutade que vous connaissez, que ne sachant pas utiliser le préservatif, il l'a mis à l'index, que vous connaissez l'histoire. Surtout par rapport au sida, la pandémie du sida, en Afrique noire, le problème était très, très... très très brûlant, on a reproché à la rigueur catholique d'interdire aux catholiques africains le recours au préservatif, qui était la seule façon d'enrayer sérieusement la pandémie. Voilà, reproche d'irresponsabilité, de manque de nuance, de manque de discernement. Ceci dit, elle repose en premier lieu sur un postulat qui est positif, non pas négatif, en termes de privation ou d'interdit, ou de suspicion par rapport à la sexualité, mais en termes positifs. La morale catholique repose sur une seule conviction fondamentale, ne pas dissocier la sexualité de la procréation, ou la procréation de la sexualité. Il y a un lien entre les deux qui est fondamental et qui doit être reconnu, respecté. Voilà, il faut accueillir la potentialité procréatrice de la sexualité, celle que Dieu a inscrite dans la sexualité. Elle ne peut pas être méprisée. Dieu l'a donnée, Dieu l'a ordonnée, cette sexualité au sein du couple, et il a placé l'enfant, que celui-ci soit né ou seulement à naître, il a placé l'enfant comme fruit de cette sexualité, comme prolongement naturel de celle-ci. Elle en fait donc partie intégrante. On ne peut pas vouloir extraire la procréation de la sexualité. On peut imaginer que la procréation humaine ait pu se faire ailleurs et autrement, hein. La zoologie, la botanique nous donne l'exemple d'autres modèles de reproduction, hein. Dieu aurait pu ordonner les choses autrement, mais voilà, tel n'est pas le cas. Et pour un catholique, il est impossible que la morale et la théologie de la sexualité fassent abstraction de cette relation fondamentale entre sexualité et procréation. De son point de vue, une sexualité qui serait volontairement déconnectée de cette ouverture à la transmission de la vie n'est plus vraiment la sexualité. Elle est comme dénaturée, elle a comme perdu son âme. Alors aujourd'hui, évidemment, le discours public, dont on a eu un petit écho, en faveur de la promotion de l'usage du préservatif, on a compris pourquoi, est un discours qui naturellement favorise une déconnexion, hein, cette déconnexion entre sexualité et procréation, et de promouvoir ce qu'on va appeler une sexualité sans risque, safe sex, le sans risque s'entendant bien sûr du risque des MST, des maladies sexuellement transmissibles, dont le HIV aujourd'hui est à la tête, mais aussi un risque du point de vue social, c'est-à-dire un risque d'une grossesse non désirée. La sexualité safe sex, c'est une sexualité qui n'engage plus les personnes, hein, d'un point de vue social, qui n'est plus génératrice d'histoire. Voilà. Alors, évidemment, du point de vue catholique, cette morale sexuelle apparaît comme très réductrice, on le comprend, hein, très appauvrissante, très négatrice de ce qu'il y a de plus riche et de plus fondamental dans la sexualité. Un rétrécissement auquel l'Église se doit de résister. Un mot sur les données bibliques maintenant. Alors, les données sur la contraception proprement dite sont peu nombreuses dans la Bible. Et si vous lisez votre Bible dans une posture un peu bibliciste, si vous cherchez le verset qui va répondre à tous vos problèmes sur la question de la contraception, vous aurez un peu de mal. Voilà. Je dirais le texte le plus direct qui m'interpelle, c'est le fameux péché de Onan dans la Genèse. Le péché d'Onan, on est en Genèse 38. Alors, qu'est-ce que c'est que l'onanisme, le péché d'Onan? Si vous ouvrez un dictionnaire, on vous parlera de pratique sexuelle solitaire, on vous parlera de masturbation. Mais en réalité, le péché d'Onan, c'est autre chose. Je résume l'histoire. Il s'agit de Judas, fils de Jacob, vous révisez votre lecture biblique, qui donne à son fils Er une femme du nom de Tamar. Er meurt, sans donner de descendants à la famille. Et c'est pourquoi Judas, qui va anticiper sur une loi antique qu'on appelle la loi du Lévirat, demande à un autre de ses fils, qui s'appelle Onan, d'épouser Tamar, donc sa belle-sœur qui est devenue veuve, et de lui susciter une descendance, lui donner des enfants, et par là donner indirectement des enfants à son frère défunt, de donner une filiation à son frère défunt. Mais Onan, nous est-il dit au chapitre 9, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Et suit la sanction de Dieu au verset 10, ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Alors qu'est-ce que le fameux péché d'Onan? Qu'est-ce que l'onanisme? Je ne crois pas que ce soit la recherche du plaisir sexuel par un individu seul, comme on l'est dans le Larousse. C'est plutôt de refuser sa semence à sa belle-sœur, devenue sa femme. C'est ôter à cette relation sexuelle son pouvoir procréateur. Bien, ce sont les motifs, que ce soit l'égoïsme ou la jalousie, qui lui font refuser de donner une descendance à son frère. Et ou bien plus précisément, c'est un péché contre la loi du Lévirat, de manière très particulière, mais que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Plus général, le texte qui interpelle la contraception, c'est dans la Genèse, le texte même de la création de l'homme et de la femme, les ordonnances qui concernent leur sexualité et ces ordres qui leur sont donnés. Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Un ordre de fécondité universelle qui vise le remplissage, le remplissement de la terre. Et certains, lisant ces versets, se convainquent que toute limitation du nombre des naissances dans un couple serait un péché contre cette ordonnance, contre ce devoir de fécondité, une sorte de refus des cadeaux dont Dieu veut nous enrichir. Ou bien un refus de collaborer à l'action créatrice de Dieu et d'accélérer ainsi le mouvement de l'histoire en mettant au monde le plus grand nombre possible de petits humains que Dieu pourra nous donner de mettre au monde. Ceci dit, ce texte de la Genèse est aussi une base possible pour légitimer, je dirais, un contrôle des naissances. Parce que ce texte donne aussi à l'homme une forme de mandat de gestion, un mandat de gestion par rapport aux données naturelles, qui s'exprime par d'autres impératifs. Dominer, soumettre la création, la cultiver. C'est ce qu'on appelle un mandat d'intendance ou de gestion, et qui donne à l'homme une responsabilité particulière dans cette gestion. Le rôle de l'homme ici n'est pas seulement de s'incliner devant la création à l'état brut, et de la suivre bêtement. Non, ce n'est pas l'accueil passif des événements naturels, mais c'est aussi en partie les gouverner, ces événements, les contrôler, les gérer, avec un souci aussi qualitatif, pas seulement quantitatif. Le respect de la nature donc s'inscrit aussi dans une culture ici, le rapport entre nature et culture, mandat culturel, dont le contrôle des naissances peut aussi faire partie. Ensuite, on pourrait collectionner dans la Bible toutes les données qui concernent le rapport à l'enfant de manière générale. Je ne vais pas vous les énumérer, son accueil comme don de Dieu, son accueil comme créature de Dieu, qui est le maître de la vie et de la mort, et à l'initiative duquel nous accueillons chacun de nos enfants comme une créature de Dieu. Je pense aussi aux directives qui concernent l'éducation, qui sont très importantes dans l'Ancien Testament, l'éducation des enfants, qui concerne certes toutes les choses matérielles, mais qui va aussi jusqu'à la transmission de la foi, d'Israël à ses enfants et à ses petits-enfants, de larges textes dans le Deutéronome, dans les Proverbes, dans les Psaumes. Voilà l'essentiel, je dirais, des données bibliques qui concernent notre sujet. L'éthique protestante, maintenant, quant à elle, elle est plus ouverte que la morale catholique sur le sujet. Elle a même participé en France très activement à l'institution du planning familial dans les années 70. Alors ça repose... d'abord, les protestantistes, on parle très peu de la contraception. C'est très rare d'avoir un discours protestant comme aujourd'hui sur l'éthique de la contraception. Encore moins d'avoir quelque chose à lire sur le sujet. Peut-être par réaction contre les abus, entre guillemets, du catholicisme, les protestants parlent peu de ce sujet. Voilà. Ou bien relèguent ces questions dans les libertés individuelles sur lesquelles l'Église ne se prononce pas, ou peu. C'est une autre conception, néanmoins, de la sexualité, de la finalité de la sexualité conjugale. Voilà. Il faut savoir que dans le catholicisme, je fais vite parce que je n'aurai pas le temps de faire le tour, mais dans le catholicisme, la finalité de la sexualité conjugale est la procréation d'enfants. Et seulement, en second lieu, je dirais, la création d'un lien particulier entre les époux, d'unir les conjoints. Voilà, ceci a un petit peu changé avec Vatican II, en 1964, mais reste quand même un motif très marqué dans la morale catholique sur le sujet. En protestantisme, la hiérarchie des fins de la sexualité est inverse, à savoir que la finalité première de la sexualité, c'est d'unir les conjoints, de créer entre eux un lien particulier, spécifique, qui va faire d'eux une seule chair, sur le texte de la Genèse. L'enfant vient ensuite et peut encore renforcer ce lien, mais la sexualité seule, même sans l'enfant, a un premier rôle positif qui garde tout son sens et toute sa beauté, même dans un couple stérile, même dans un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfant ou qui serait plus en âge d'en avoir. Voilà. Une autre théologie de la sexualité aussi, parce qu'en catholicisme, depuis saint Augustin, il y a une forme de mariage qui est posée dans la morale catholique entre la sexualité et le péché, entre la sexualité et la concupiscence, qui gêne les moralistes catholiques et qui essaye par la procréation quelque part de moraliser la sexualité et de doter le doute, la suspicion négative qui toujours plane un peu sur elle. Ce qui n'existe pas en protestantisme. Et enfin, un autre rapport à la nature, je l'ai déjà évoqué, appelé non pas forcément à s'incliner devant les faits naturels, mais plutôt à les gérer dans une posture plus ouverte, plus dynamique. Donc il n'y a pas de sacralisation des faits naturels en morale protestante. Il n'y a pas non plus une diabolisation de l'artifice, que la procréation soit naturelle ou artificielle. C'est une distinction qui paraît un petit peu jésuite pour les protestants. Alors, il y a quand même un très beau texte protestant sur le rapport entre la sexualité et la procréation. J'hésite à vous lire parce que je ne vais pas pouvoir tenir mon temps, mais on pourra peut-être y revenir cet après-midi si le temps le permet, de André Gounel, une très belle page, très rare chez un protestant sur ce sujet. Voilà. Donc on comprend que, de toute façon, qu'on soit protestant ou catholique, le discours éthique sur la contraception, ce n'est pas simplement de dire oui ou de dire non. Ce n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre la vente des préservatifs sur l'espace public. Mais c'est autre chose. C'est d'abord de savoir dire et redire dans notre temps la beauté, la dignité du corps, la richesse de la sexualité associée au projet conjugal que Dieu a conçu pour elle. Voilà, c'est notre rôle d'Église que de pouvoir nous exprimer sur cette question fondamentale. Là est l'essentiel, là est notre tâche première, et c'est autour de ça que pourra s'articuler ensuite le reste. Voilà. Maintenant, au sujet de la sexualité conjugale au sens étroit, le catholicisme fait une distinction, je vous l'ai dit, entre ce qui serait une contraception naturelle ou une conception artificielle. Et là, le protestant a du mal à suivre son frère catholique. Parce que ne pas avoir volontairement de rapport sexuel pendant la période de fécondité afin de ne pas concevoir d'enfant, ou bien utiliser un moyen contraceptif pour ne pas concevoir de nouvel enfant, est-ce que ça ne revient pas à un comportement qui, dans les deux cas, est intentionnellement contraceptif? Où se trouverait la moralité absolue du premier comportement et l'immoralité absolue du deuxième? L'intention est la même et l'action est tout aussi active et volontaire d'un côté que de l'autre. Si le comportement contraceptif se situe dans le cadre du projet conjugal que Dieu a dessiné devant eux, s'il n'est pas motivé par un refus de l'enfant, il y a déjà quelques enfants dans la famille, pas par un refus égoïste de se laisser déranger par l'enfant, s'il est adopté en toute liberté et responsabilité vis-à-vis de Dieu, alors il est vu par le protestant comme étant libre de tout reproche. L'éthique protestante va s'articuler sur plusieurs axes principaux. D'abord, l'idée et la conviction que Dieu nous appelle à une parentalité responsable. Premier thème très important, qui prend un sens différent, je ne le développe pas maintenant, dans la bouche d'un catholique ou d'un protestant, mais voilà, une parentalité responsable. Pour faire court, c'est la conviction qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas que des lapins. Nous ne sommes pas que des lapins, nous sommes plus que des lapins. Dieu nous appelle dans la procréation, non seulement à mettre des enfants au monde, à être des géniteurs, mais aussi à éduquer nos enfants et à leur apporter en son nom le minimum dont ils ont besoin pour entrer dans la vie, que ce soit sur le plan matériel, bien sûr, la santé, mais aussi affectif, et même, on l'a évoqué rapidement, spirituel. Les soutenir, les porter jusqu'à leur maturité, leur servir de tuteur. C'est tout cela une paternité responsable. Voilà. Donc, le refus de la contraception peut être une attitude tout à fait légitime dans un cas et moins dans un autre. Voilà. Si le refus de la contraception dans un couple est l'expression d'une ouverture généreuse au don de la vie, hein, dont on a parlé, qui est partagée positivement et symétriquement par les deux conjoints, j'insiste là-dessus, hein, par les deux conjoints, hein, que ceci ait la capacité aussi minimale d'assumer jusqu'au bout cette responsabilité parentale et de conduire une famille de 7-8 enfants, je dirais, il y a là une posture qui est parfaitement honorable et respectable et que l'Église doit soutenir. Mais le même refus peut devenir franchement immoral, voire répréhensible, lorsqu'il est l'expression, par exemple, mais j'ai connu ce cas dans ma pastorale à Marseille, presque mot à mot, s'il est l'expression de la tyrannie d'un père de famille alcoolique, hein, qui a déjà imposé à sa pauvre femme 6 grossesses successives dont elle ne voulait pas, chômeur en fin de droit, incapable de donner à ses enfants déjà vivants un minimum d'éducation, incapable de pourvoir à leurs besoins élémentaires, du surcroît homme violent qui s'est déjà fait retirer par la DAS 3 de ses enfants. Voilà, on est dans une autre situation. Hein. Et nous ne sommes pas des lapins, je vous l'ai dit. Notre responsabilité, notamment paternelle ici, ne s'arrête pas, je dirais, au fait de mettre sa femme enceinte. Plutôt, tout commence. Hein. À ce moment-là, mais rien n'est fini. Hein. Voilà. Et s'étend une parentalité responsable qui s'étend bien au-delà de la simple procréation biologique. Voilà. Le raisonnement qu'on trouve parfois chez les évangéliques, hein, qui consiste à dire simplement, bon, Dieu lui-même décidera du nombre d'enfants qu'il voudra bien nous donner, et puis, comme il nous les donnera, il pourvoira lui-même à leurs besoins, puisque c'est lui qui décide de leur venue au monde, voilà, comme si on n'y était pour rien, ce n'est pas une attitude qui est défendable vraiment devant Dieu. Voilà. On parle de capacité minimale à assurer une parentalité responsable. Alors, ne nous trompons pas, quand on est parent, je ne sais pas qui d'entre vous ici est parent, mais quand on est parent, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on peut appeler une position de maîtrise. On ne maîtrise pas grand-chose. Une procréation, mais faire des enfants, c'est un acte de foi. C'est déjà un acte de foi de se marier dans le moment de la vie. C'est un acte de foi, un mariage. Hein. Eh bien, aussi, j'irai mettre au monde des enfants, c'est aussi aujourd'hui un acte de foi. On est maître de pas grand-chose. Hein. Pour un chrétien, j'irai mettre au monde des enfants, c'est un acte de confiance. Hein. Il faut avoir confiance en Dieu. Pour mettre au monde une famille nombreuse. Confiance en Dieu, il faut s'appuyer sur ses promesses, sur la certitude que lui-même va nous accompagner et va pourvoir aux besoins de cette famille nombreuse jusque dans l'adversité. Est-ce qu'on aura les moyens de donner à nos enfants de bonnes études dans ce monde difficile où on risque à tout instant de perdre son emploi? Nous l'ignorons. Donc c'est une question de confiance en Dieu, de confiance en la vie. Hein. Donc lorsqu'on parle de capacité, ce n'est pas une question de compte en banque, hein, d'avoir le capital en banque qu'on peut mettre de côté à la banque pour pouvoir assurer à l'enfant les études à Harvard qu'on lui souhaite quand il aura 25 ans. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est d'une disposition à prendre au sérieux la responsabilité qui nous incombe dans cette affaire. C'est un saut dans le vide, mais c'est un saut contrôlé. C'est un saut contrôlé. Et si on n'est pas en mesure d'assurer de nos moyens futurs, on est néanmoins en mesure, dans le présent, de constater les signes, par exemple, d'un épuisement dans un couple. Il y a déjà 5 enfants dans la famille, on est capable quand même de constater les signes d'un épuisement et puis des limites qui peuvent être nos ressources ou seulement de l'un des deux conjoints. L'éthique de la contraception, si vous me donnez encore 5 minutes, c'est aussi, je dirais, la contraception doit être un lieu de vigilance dans le couple. Surtout dans une optique ouverte, hein, comme le petit protestant, il faut faire un peu de vigilance. Le recours à la contraception artificielle peut être le premier pas dans l'altération du rapport à l'enfant. Le premier pas sur une pente glissante dont je voudrais vous parler. Hein. Avec la maîtrise de la fécondité qui s'est développée par paliers successifs, les mentalités ont progressivement changé. Et le rapport du couple à l'enfant, petit à petit, s'est profondément altéré. Autrefois, les couples étaient préoccupés essentiellement par le fait d'avoir des enfants. C'était leur souci principal. Et le grand ennemi, la bête noire de toute l'histoire de l'humanité, c'est la stérilité. La stérilité jusque dans la Bible, hein, et dans l'Ancien Testament. La stérilité. Voilà. Ensuite, c'est de pouvoir maîtriser le nombre de ses enfants. Deuxième maîtrise, avoir des enfants. Deuxièmement, maîtriser le nombre des enfants. Avec la pilule, les femmes ont aussi été en mesure de décider d'un autre paramètre de maîtrise, le moment, hein, le moment où elles souhaitaient concevoir par rapport à leur plan de carrière, à leur plan de vie, leur voyage, leurs études, leurs prestations sportives, etc. Décider du moment. Et puis, à ces 3 premières maîtrises, on en ajoute bientôt une 4e, c'est pas seulement combien j'en veux et quand j'en veux, mais comme je le veux, hein, ou tel que je le veux. Hein. Ayant décidé la conception d'enfants, choisi le moment de cette conception, décidé de leur nombre, il ne reste plus qu'à s'assurer que cet enfant sera bien conforme à l'idée idéale que l'on s'en fait. Et dès lors, le rendez-vous chez le généticien et la myosynthèse s'impose de façon très naturelle. elle s'inscrit dans le même mouvement. Et hier, la souffrance éprouvée lorsqu'on ne pouvait pas avoir d'enfants, ou au contraire parce qu'on en avait trop, demain, la même souffrance, si on n'a pas cette vigilance intérieure, cette même souffrance va être éprouvée de façon tout aussi réelle, avec la même acuité, lorsqu'on aura un enfant simplement d'un sexe que l'on ne souhaite pas, ou d'un potentiel génétique inférieur à celui que l'on espérait. Voilà, c'est pas une blague, quand on sait qu'aux États-Unis, on peut aujourd'hui commander sur Internet du sperme du prix Nobel. On peut acheter ce genre de choses aujourd'hui. Donc, si on n'est pas attentif, je vous appelle à la vigilance. La maîtrise contraceptive peut être le premier pas sur cette planche savonneuse qui va de l'enfant sujet à ce qu'on appelle l'enfant objet, d'un enfant prisonnier d'un amour narcissique qui n'aime pas l'enfant pour lui-même mais pour le projet qu'on a pour soi au travers de lui. Mettre l'enfant au même rang que des choses auxquelles on a droit, voilà. C'est une tentation qui existe déjà sur le plan naturel. Je crois que le chat d'Iran avait congédié son épouse parce qu'elle ne lui avait pas donné le fils auquel il pensait être en droit d'attendre d'elle. Elle est comme amplifiée, cette tentation, portée à un degré supérieur aujourd'hui par l'accès aux techniques de procréation artificielle, hein, qui, sans le vouloir, incite de plus en plus à regarder la privation d'enfants comme étant inacceptable, comme étant insupportable. Même si d'aventure on est du même sexe, aujourd'hui la PMA fait ressentir la privation d'enfants comme tout à fait discriminatoire et tout à fait insupportable. Voilà, je terminerai en vous parlant de la liberté de l'enfant, parce que c'est peut-être cette liberté-là qu'il faut mettre la valeur à préserver dans tout ça. J'entends liberté au sens le plus fondamental, au sens le plus philosophique du terme. Hein. Cette liberté de l'enfant par rapport à ses parents, hein, si vous avez déjà eu des enfants, vous l'avez éprouvé, elle se manifeste de différentes façons. D'abord, votre enfant, il marque sa liberté par rapport à vous, par le fait qu'il a la liberté de vous être donné ou de ne pas l'être. Voilà. Sa seule venue au monde est déjà un cadeau qui vous est fait. Soit sa naissance vous est donnée, soit elle ne vous est pas donnée. Il n'y a pas ici de droit à l'enfant, il n'y a pas de prétention à la toute-puissance qui pourrait le mettre dans la position d'un objet auquel vous auriez droit. Première liberté. Deuxième liberté, c'est que votre enfant vous impose le choix de son sexe. En tout cas, jusqu'à présent. Peut-être ces choses changera, mais jusqu'à présent, les lois sont ainsi faites. On peut le faire techniquement, hein, je vous donnerai la méthode si vous ne connaissez pas. Mais la loi ne l'autorise pas, donc il vous impose son sexe. Voilà. Mais mes parents, il y a déjà eu un garçon, étaient convaincus à l'époque que je serais une fille. Voilà. Et quand je suis né, voilà, ils ont vu ma zigounette et ça les a complètement pris de court. Ça a bouleversé leur plan. Voilà. Et en plus, pour les troubler, ils sont allés à l'état civil, ils ont déclaré le prénom Michel et puis l'officier d'état civil a refusé le prénom en disant que c'était trop ambivalent sexuellement. Et donc il a collé un deuxième nom, François, qui lui a été jugé recevable. Voilà. Voilà, mais je suis là, voyez. Voilà. Vos enfants vous dérangent aussi et vous imposent leur liberté quelque part par leur nombre, même si vous pouvez faire un effort pour contrôler le nombre de vos enfants, mais il y aura toujours dans votre famille un petit dernier, une petite dernière. Ma femme est une petite dernière, là, l'enfant original, là. Voilà. Et je rends grâce à Dieu qu'elle soit la petite dernière. Voilà, qui est né 10 ans après ses frères et sœurs plus âgés et qui n'était attendu par personne. Donc, ils vous dérangent, vos enfants, par leur nombre, comme aussi par le calendrier de leur naissance, qui n'est pas tout à fait celui que vous aviez planifié. Il vient bouleverser vos projets de vie, il vient bouleverser vos plans de carrière, voilà, et il est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. Si vous n'êtes pas prêt à ce dérangement, n'entrez pas dans la démarche, hein. C'est pas la peine de vouloir être parent, vous n'y parviendrez pas, se laisser déranger par eux. Devenir parent, c'est reconnaître à ses enfants cette quadruple liberté, accepter de se laisser déranger par eux, accepter qu'ils puissent venir bouleverser tous vos projets, tous vos plans de carrière, toute la gestion de votre patrimoine, qu'ils viennent bouleverser le fil de votre histoire, et même que votre, pourquoi pas, que votre histoire puisse désormais être en partie écrite par eux. Accepter que votre histoire puisse désormais être écrite par eux. Alors, si vous me permettez, je vous lis en conclusion la fameuse page d'André Gounel tout à l'heure, sur laquelle je termine. C'est très beau et c'est exceptionnel sur la plume d'un protestant, un médecin protestant, sur le rapport entre la sexualité et la procréation. Je vais vous lire cette page en conclusion. En dissociant la sexualité et la procréation, dit André Gounel, on la dévalorise, on la banalise, on la superficialise. La relation sexuelle, désormais, devient moins décisive, elle est moins porteuse de sens. Elle ne se vit plus comme mettant en jeu toute l'existence. Car la responsabilité d'un enfant pèse beaucoup et dure des années dans la vie conjugale. L'éventualité d'une naissance donne du poids à la relation sexuelle et l'interdit de la considérer comme négligeable. Elle pousse à l'inscrire cette relation dans la durée. Et lorsque cette éventualité peut être évitée presque à coup sûr, par exemple par l'utilisation d'un moyen contraceptif, lorsqu'elle peut être évitée presque à coup sûr, la relation sexuelle peut beaucoup plus facilement être vécue au jour le jour. Elle ne concerne plus que le présent désormais. Elle n'engage plus l'avenir. Elle peut aussi facilement être vécue plus superficiellement, en ce sens qu'elle implique moins profondément les partenaires. Elle a moins de conséquences pour eux. D'où une certaine dévalorisation, banalisation de la relation sexuelle. Elle devient moins décisive, moins porteuse de sens, moins déterminante. Elle ne se vit plus comme engageant toute l'existence. Merci pour votre attention.